Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas, et non, à sa tradition, et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps déjà, même moi j'étais pas né, c'est vous dire à quand ça remonte. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre émission à célébrer musicalement et cinématographiquement eh bien, la mine et les mineurs, un thème qui revient souvent dans le cinéma pour exalter cette profession difficile, alors aujourd'hui bien vilipendée, à l'heure où le charbon n'est plus considéré comme un combustible pouvant être utilisé dans une terre déjà asphyxiée, mais ma foi, au 19e siècle notamment, même si évidemment les mines remonte à la plus haute antiquité, au 19e siècle notamment, bien l'exploitation des mines de charbon fit bien la fortune de la révolution industrielle, et du coup le cinéma illustra de maintes reprises ce qui s'apparente souvent à une lutte du pot de terre, en l'espèce les mineurs, contre le pot de fer, en l'espèce les méchants industriels. C'est d'ailleurs le cas du premier film qu'on va évoquer, un film de John Ford tourné en 1941 et qui raconte la vie dans les mines du Pays de Galles. Alors au début tout est relativement idyllique et les mineurs sont bien payés et relativement bien considérés, mais ensuite tout dégénère, les mineurs sont renvoyés, c'est la grève et du coup comme souvent la grève déchire les familles et notamment celle du héros de ce film. Qui raconte son histoire. On devine que lui a échappé à la mine et est devenu romancier. C'est Roddy McDowall qui l'interprète et il raconte eh bien, l'histoire de sa famille, de ses parents, de ses amours, etc. Le tout est inspiré d'un roman de Richard Llewellyn et le tout eh bien, obtint un très très grand succès. En 1940, John Ford avait tourné deux films dont Les Raisins de la Colère avec Henry Fonda d'après John Steinbeck qui fut déjà un énorme succès. Et en 1941, Quelle était verte ma vallée ? Je m'aperçois que je ne vous avais pas encore donné le titre. Quelle était verte ma vallée ? Eh bien, obtint rien moins que l'Oscar du meilleur film, celui de la mise en scène, celui de la photo, et que, pour couronner le tout, il fut élu film de l'année par la critique new-yorkaise, qui était un prix presque aussi prestigieux que celui des Oscars. La musique de ce film, elle était signée d'Alfred Newman, qui, dans les années 40, régnait en maître sur la musique de films hollywoodienne. On en écoute un extrait, « How Green Was My Valley ?» dans 24 notes secondes.
Green all my dear boy.
Le grand classicisme hollywoodien d'Alfred Newman pour la bande originale de « Quelle était verte ma vallée »« How green was my valley ». Un film de John Ford. Alors, au début, on a entendu, comme il se doit, The Welsh Singers, les chanteurs gallois, pour ce chœur très fort. Et le chœur, eh bien, c'est une façon aussi d'illustrer métaphoriquement l'union des mineurs, qui est souvent un thème récurrent des films, c'est-à-dire le fait que les mineurs qui s'unissent, eh bien, parviennent à lutter contre la mainmise des méchants bourgeois qui tirent l'essentiel des bénéfices de la mine. C'est aussi tout le sujet d'un film de Yves Allégret, tourné en 1963. D'après un roman que je n'ai sans doute pas besoin de vous présenter, d'Émile Zola. Le roman, il s'appelle évidemment Germinal, et c'est un des volumes de la saga des Rougon-Macquart, cette fameuse saga de romans naturalistes qu'Émile Zola initia pour illustrer en fait toute la vie de la France au XIXe siècle. Et évidemment, la vie des mines en faisait largement partie, la dure vie des mines du Nord, où atterrit Étienne Lantier, qui est un des personnages, non pas récurrent, puisqu'on ne le voit que dans Germinal, à ma souvenance, mais un des personnages de cette fameuse saga dynastique que Zola avait magistralement, non pas mis en scène, mais écrite, et qui, à chaque fois, pour chaque roman qui se situe dans des milieux particuliers, notamment la terre pour les agriculteurs, etc., etc., et bien à chaque fois, les romans étaient l'objet, ou plutôt le résultat d'une longue enquête sur le terrain. Et ça avait été le cas de Germinal. Alors le film avait déjà été adapté dès le muet, figurez-vous. Mais en 1963, Yves Allégret en proposa une nouvelle version. Le rôle d'Étienne Lantier était tenu par Jean Sorel, qui est un acteur peut-être un peu délicat pour un personnage plus frustre, en tout cas tel que décrit par Zola. À ses côtés, il y avait notamment Claude Brasseur ou Bernard Blier, pilier incomparable du cinéma français des années 60-70. Et la musique de ce film, aussi surprenant que cela paraisse, elle est signée de Michel Magne. C'est surprenant puisqu'ensuite, Michel Magne s'illustra notamment en tant que compositeur de la musique des films de Jean Yann. On le vit aussi sur la série des Fantomas d'André Humbel. Et puis surtout, cher à mon cœur, c'est lui qui a composé la musique d'Angélique, Marquise des Anges, avec cette délicieuse Michel Mercier. Mais on a déjà consacré une émission entière à Michel Mercier. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, Michel Magne, Germinal, 24 notes secondes. Thank you. dirais effectivement une version lente d'Angélique et Marquise des Anges, un extrait de la bande originale de Germinal, un film d'Yves Allégret, une musique de Michel Magne, déjà célébrée avec Jean Sorel, Claude Brasseur, Bernard Blier dans les rôles principaux, une façon d'illustrer en fait les luttes dans les mines du Nord avec... je dirais, des conflits d'une dureté et d'une brutalité qu'on a peine à imaginer maintenant, même si maintenant aussi il y a des conflits d'une dureté et d'une brutalité qu'on a peine à imaginer. Et on va rester dans le milieu de la mine et des mineurs, on va rester d'ailleurs dans le Nord, mais pas à la même époque, puisque ce sera dans les années 1930, pour un film d'Éric Barbier, sorti en 1991 et qui s'appelle Le Brasier, et qui détient sans doute le douteux record d'être à la fois l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français à l'époque, puisque c'était le premier à dépasser 100 millions de francs à l'époque, 91, c'était des francs de budget, et puis surtout sans doute le plus gros échec commercial en proportion de ce budget, puisque le film rapporta très très peu d'argent, ce fut un échec commercial et critique absolument total, qui est bien immérité, vous allez pouvoir en juger au moins par un extrait de la bande originale, et d'une certaine manière ça emporta au moins pour quelques années la carrière des personnes qui étaient associées, là encore injustement. Jean-Marc Barr, évidemment, héros du Grand Bleu, ma foi après, ne connut pas une carrière que peut-être le rôle du Grand Bleu aurait pu lui permettre. Maroushka Detmers, qui était sa partenaire féminine, eh bien, vous n'en avez plus jamais entendu parler. Et Éric Barbier, donc, qui était le réalisateur de ce film, eh bien, il mit des années, beaucoup d'années, avant que des producteurs lui fassent à nouveau confiance. En même temps, on peut leur comprendre un peu, les producteurs, 100 millions de francs, c'est quand même beaucoup d'argent. Et il mit beaucoup d'années avant de retrouver des producteurs pour lui faire confiance. C'est dommage, le film était certes très brutal, très très dur, très pessimiste. Bon, effectivement, rien que ça, déjà, ça dit un peu pourquoi il y a eu un insuccès commercial. Il y avait vraiment très très peu d'espoir dans un film noir, c'est noir, centré autour de la rivalité entre mineurs français et polonais. Dans les années 30, ma foi, hélas, l'histoire a parfois tendance à se répéter. Le compositeur lui-même ne connut pas la carrière qu'il aurait sans doute méritée. En tout cas, vous allez pouvoir en juger, il s'appelle Frédéric Talgorn. Lui non plus, vous n'en avez guère entendu parler ensuite, même s'il a continué sa carrière. Et on écoute donc un large extrait de la bande originale du Brasier dans 24 notes secondes. Je le maintiens, la superbe et nostalgique partition de Frédéric Talgorn pour le brasier, pardonnez-moi, un film d'Éric Barbier sorti en 1991, un très très gros succès commercial, et c'est un peu dommage pour un film certes très 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 sombre, mais qui justement avait les qualités lyriques de cette sombritude. Allez, vous me la passez, celle-là. On va rester dans une histoire encore un peu tragique, mais on va passer de l'autre côté de l'Atlantique pour un film de Martin Ritt sorti en 1970 et qui racontait, là encore, la lutte des mineurs contre leurs exploiteurs. Alors, pour le coup, ça se passait au 19e siècle et en Pennsylvanie, mais l'histoire était toujours un peu la même. D'un côté, des mineurs exploités souvent au mépris de leur sécurité par leur patron, et du coup, de l'autre côté, des ouvriers qui se révoltaient. Alors, dans beaucoup de cas, c'est de la révolte syndicale par la grève, mais en l'espèce, c'était via un terrorisme ouvrier, c'est-à-dire que, eh bien, une sorte de secte ou de groupe appelé les Molly Maguire, eh bien, en représailles à justement à l'interdiction du syndicalisme et à l'exploitation par les patrons, eh bien, fomentaient des attentats dans les mines de charbon. Aux commandes du film, donc, il y avait Martin Ritt, ça, je l'ai déjà dit, mais à l'interprétation, il y avait Sean Connery et Richard Harris, certainement deux des figures masculines les plus charismatiques du cinéma américain des années 70. Alors, l'un comme l'autre avait des rôles un peu... Enfin, pas de rôle protagoniste, puisque Sean Connery, on le voyait arriver presque trois quarts d'heure après le début du film, donc autant dire que ce n'était pas le protagoniste principal, mais protagoniste principal, c'est un pléonasme. Et Richard Harris, bien ma foi, il était dans un rôle assez ambigu, un personnage, on ne savait pas dire s'il était antipathique ou pas. Le film, en tout cas, était assez pessimiste, un peu comme Le Brasier. Et comme Le Brasier, eh bien, il a connu un échec commercial assez conséquent. La musique, elle est d'Henry Mancini, qui remplaçait en l'espèce Charles Strauss, dont la partition avait été recalée. Ça arrive parfois dans le cinéma américain. Alors, Henry Mancini, c'est évidemment l'auteur de notre générique, en espèce Diamant sur canapé de Blake Edwards, le compositeur favori de Blake Edwards et notamment l'auteur du thème immortel de la Panthère Rose. Ici, il avait choisi d'illustrer le côté irlandais de la chose, puisqu'évidemment, tous ces mineurs, enfin évidemment, ces mineurs, en tout cas, comme ceux de John Ford au début du film, étaient d'origine irlandaise, en tout cas venaient du vieux continent. Du coup, pas mal d'instruments traditionnels. Je vous laisse en profiter, juste en vous précisant, parce que quand même, il faut le dire, le film en anglais, il s'appelle The Molly Maguire. En français, il s'appelle Traître sur commande. Et l'émission, elle s'appelle 24 notes secondes. La délicate et allègre musique d'Henry Mancini pour un film qui l'est beaucoup moins, The Molly Maguire en anglais, Traître sur commande en français. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un des nombreux films suscités par la politique de Miss Thatcher. Vous savez, celle qui disait « Tina, there is no alternative », celle qui disait « une société », mais ça n'existe pas, une société. Et en l'espèce, c'est bien un film consacré à la très dure, alors la très très dure lutte des mineurs contre justement le gouvernement et les pratiques de Madame Thatcher. Et ben, contre ces pratiques, on se réfugie dans la musique et dans l'humour. Ma foi, il y a pire en fait que de tels choix. Le film, il s'appelle Les Virtuoses, Brassed Off en anglais, un film de Mark Herman tourné en 1996. Dans les rôles principaux, il y a Pete Postlethwaite et Ewan McGregor. Et je laisse la place à la fanfare dans 24 notes secondes. Thank you. I'm very sorry. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.